Bonjour, je vous propose une nouvelle lecture d'un texte de l'Apocalypse. Nous avons eu un survol général et puis je vous ai proposé une lecture d'une des lettres à l'église, cette fois à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3. Et aujourd'hui, je vous propose de commenter le septenaire des sept trompettes. Je vous rappelle que la structure du livre de l'Apocalypse telle que je vous l'ai présentée, c'était des septenaires. Il y avait les sept oracles aux églises, il y avait les sept sceaux, il y avait les sept trompettes, les sept visions, ensuite les sept coupes, les sept paroles et les sept visions de victoire. Et là, je vous propose de commenter les sept trompettes. Nous voici devant un modèle du genre de l'Apocalypse, hein, une succession de tableaux hauts en couleur. Je vous propose d'ailleurs de les recevoir tout d'abord comme des scènes simples, avec leur caractère grandiose, et pas comme une collection d'allégories dont il va falloir aller chercher le sens caché, qu'il va falloir décrypter. Donc voilà, je vous propose cette lecture tout d'abord toute simple. Il s'agit des chapitres 8, 9, 10 et 11 du livre de l'Apocalypse. Et je vous propose de le lire, de lire l'ensemble des textes dans la nouvelle français courant. Verset 1 du chapitre 8, quand l'agneau brisa la septième attache, ou je disais tout à l'heure le septième sceau. Hein, on se situe, c'est un enchaînement avec le septenaire des sceaux qui précède. Et là, l'ouverture du septième sceau donne lieu à une scène particulière dans laquelle on va mettre en place le septenaire suivant des sept trompettes. Alors, je vais lire simplement le début du chapitre. « Quand l'agneau brisa la septième attache, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. On leur donna sept trompettes. » Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel d'or situé devant le trône. La fumée de l'encens s'éleva de la main de l'ange devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Puis l'ange prit le brûle-parfum, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut aussitôt des coups de tonnerre, des bruits de voix, des éclairs et un tremblement de terre. Voilà le tableau central est posé. J'espère que vous avez écouté la lecture en fermant les yeux et en imaginant la scène. Vous avez par exemple ce genre de scène également décrite au chapitre 4, versets 1 à 6. Je vais vous le lire d'ailleurs pour qu'on puisse se représenter en somme Dieu devant sa cour. Je vous lis Apocalypse 4, versets 1 à 6. « Après cela, j'eus une autre vision. Je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix que j'avais entendue me parler auparavant, celle qui résonnait comme une trompette, me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Aussitôt, l'Esprit s'empara de moi. Et voici, dans les cieux, se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses, de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels siégeaient 24 anciens, vêtus de blanc et portant des couronnes d'or. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. Sept flambeaux ardents brûlaient devant le trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer transparente, aussi claire que du cristal. » Voilà la scène que l'apôtre Jean a sous les yeux, cette vision qu'il a et qu'il tente de décrire. Donc on voit, il suffit de se laisser impressionner par cela. On voit Dieu dans toute sa gloire, si je puis dire. Il y a, dans notre texte, je lisais tout à l'heure, un autel des parfums, ou un autel. Un autel d'or, nous dit le texte. Est-ce que ça ressemblait à l'autel des parfums du temple? Peut-être. Il y a aussi un brûle-parfum, d'autres traductions disent un encensoir. Alors peut-être que c'est un objet dans lequel... C'est assez difficile de savoir, mais enfin, je suis un petit peu documenté. Il peut s'agir d'un genre de pelle dans lequel il y a on met des braises, et sur lesquelles, sur ces braises, on va mettre des herbes ou du parfum sous toutes sortes de formes. Et donc, de l'encens, hein, donc c'est précisé dans le texte. Donc, on jette de l'encens sur ces braises incandescentes, ce qui fait qu'évidemment, l'encens se consume, ça produit de la fumée. Et puis, l'idée de jeter ensuite les braises sur la terre, hein, puis l'ange prit le brûle parfum, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. On comprend le geste, hein, il s'agit d'un geste, si c'est un genre de pelle, hein, si je puis dire, ben là, on comprend très bien le geste. Les prières sont ici sont symbolisées par cet encens qui monte, dont la fumée monte vers Dieu. C'est une scène qui se passe dans le ciel, puisqu'il est question de jeter des braises sur la terre. C'est une scène qui se passe dans un genre d'élévation, c'est très difficile. Mais on voit que la terre n'est pas très loin, puisque une fois que les braises ont été jetées sur la terre, on entend des coups de tonnerre, des bruits de voix, des éclairs et un tremblement de terre. Donc on voit quelque chose de très fort se passe. Première chose, moi, chrétien du 1er siècle, quand j'entends ça, je me dis, mais mes prières ont été entendues par Dieu. Parce que dans cette vision, elles sont figurées par cette fumée de l'encens qui vient devant Dieu. Et en entendant ces prières, Dieu va réagir. Dieu va jeter ces braises du brûle-parfum, de l'encensoir, sur la terre. Donc ça va être la réaction que Dieu va donner. Et cette réaction va être lourde de conséquences. La question des prières à ce moment-là se pose. Quelles étaient ces prières-là? Est-ce que c'était des prières avec peut-être une demande de justice? On le voit à bien des endroits. Je vous cite par exemple la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, où là il est question de demander justice à Dieu. Hein. Et puis alors, bien sûr, il y a les psaumes aussi, il y a toutes ces prières qui sont... Alors, qui ne demandent pas forcément, comme le psaume 139, entre autres, les psaumes imprécatoires, qui ne demandent pas forcément la disparition avec violence, hein, de l'auteur de la persécution ou de la violence, mais simplement que justice soit rendue. Deux Thessaloniciens, ils ont les versets 6, chapitre 2, verset 6. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Or, maintenant, vous savez bien ce qui retient. Pour qu'il se révèle en son temps. Car déjà, le mystère du mal est à l'œuvre. » Bon, évidemment, on prend ça dans le cours de la lecture. Excusez-moi, vous pouvez reprendre le texte sous les yeux pour comprendre un peu mieux le développement de Paul. « Il faut seulement que celui qui retient maintenant ait disparu. Alors se révélera le sans-loi que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il réduira à rien par la manifestation de son avènement. L'avènement du sans-loi se produira par l'opération de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les tromperies de l'injustice pour ceux qui vont à leur perte, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » Alors on a déjà une mini-apocalypse là, dans le développement de l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens. C'est un texte presque vengeur, et je vous rappelle que c'était aussi l'idée que dans l'Apocalypse, que justice soit rendue à ces personnes qui sont injustement persécutées pour leur foi. Alors oui, moi qui lis cette vision, je me dis, mes prières auront été entendues. Alors viennent ensuite la fameuse trompette. Vous avez constaté que dans la cour de ce grand roi qui se tient sur son trône, devant cet autel où brûle l'encens et symbole des prières, eh bien, il y a sept anges qui vont sonner chacun de leurs trompettes. Les quatre premières trompettes, je pense, sont à lire ensemble. Je vais vous en faire la lecture, donc au chapitre 8, toujours bien sûr, verset 6. « Les sept anges qui tenaient les sept trompères se préparèrent alors à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette. De la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre et le tiers des arbres furent brûlés, ainsi que toute l'herbe verte. Puis le deuxième ange sonna de la trompette. Une masse semblable à une grande montagne enflammée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer se changea en sang. Le tiers de toutes les créatures vivant dans la mer mourut, et le tiers de tous les bateaux fut détruit. Puis le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile qui brûlait comme un flambeau tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Amertume. Le tiers des eaux devint amer et beaucoup de ceux qui en burent moururent parce qu'elles étaient empoisonnées. Puis le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils perdirent un tiers de leur clarté. Le jour perdit un tiers de la clarté et la nuit de même. Fin de la lecture au verset 12. Alors il s'agit là de cataclysmes naturels. Il n'y a pas de violence entre les humains, ça viendra après malheureusement, mais il s'agit de cataclysmes qui touchent les éléments naturels. Première trompette sur la mer, première trompette sur la terre, deuxième trompette sur la mer, troisième trompette sur l'eau douce, quatrième trompette dans le ciel. Ces tableaux ont donné le sens au mot au mot apocalyptique, par exemple en français d'aujourd'hui, quelque chose d'apocalyptique, c'est une catastrophe sans nom qui détruit tout. Ben voilà, c'est pas tout, hein, c'est presque tout, mais c'est quand même c'est ce qui a donné le sens actuel au nom apocalypse. Le jugement de Dieu s'abat, puisqu'il s'agit de cataclysmes naturels et non pas d'actes humains. Ce n'est pas un genre de croisade vengeresse terroriste dont Dieu se servirait. Non, c'est tout simplement Dieu lui-même qui agit sur les éléments naturels et provoque ces cataclysmes. C'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Qu'est-ce qu'on ressent à la lecture? Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant la lecture de ces tableaux terribles? Moi, je ressens de l'angoisse, je ressens de la peur. De l'émotion aussi de voir Dieu dans sa position de juge, peut-être presque un soulagement en disant ouf, ce Dieu-là, il vaut mieux être avec lui que contre lui. Et alors moi qui suis un croyant du premier siècle, je peux aussi me dire ouf, ben j'ai été bien inspiré, c'est le cas de le dire, inspiré par l'Esprit de Dieu, j'ai été bien inspiré de placer ma confiance dans ce Dieu qui peut se montrer si terrible. Crainte, respect devant une telle puissance, satisfaction de l'avoir écouté, puis tristesse aussi, tristesse de voir toute cette violence qui s'abat sur les humains et sur la création. Alors, sur les humains, en conséquence, hein, il y a beaucoup de personnes qui meurent en conséquence des cataclysmes naturels. Et puis ensuite, il y a un tableau intermédiaire au verset 13, je vais vous le lire. « Je regardais encore. Et j'entendis un aigle qui volait très haut dans les airs proclamer d'une voix forte « Malheur ! Malheur ! Quel malheur pour les habitants de la terre quand les trois autres anges vont sonner de leur trompette !» Alors là, fin de la lecture du verset 13. Bien sûr, vous aurez compris, un aigle qui parle, ça n'existe pas. C'est donc, on est bien dans une vision. Alors certains traducteurs pourraient même donner vautour à la place d'aigle, c'est une traduction possible. Donc on imagine la scène, encore une fois, c'est un oiseau de mauvais augure, sans jeu de mots, il ne s'agit pas d'un augure là, d'un devin mais païen, mais d'une annonce inspirée par Dieu lui-même. C'est une pause dans un développement haletant. Avec ces quatre trompettes, on a déjà tant de destruction autour de nous, et puis là, il y a quelque chose de pire qui arrive encore. Cinquième et sixième trompette. Chapitre 9, au verset 1. Alors le cinquième ange sonna de la trompette. Et là, les trompettes vont ensuite, les cinquième et sixième trompettes vont être des descriptions beaucoup plus longues. Je vis une étoile qui était tombée des cieux sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Personnification de l'aigle, personnification des éléments, qu'importe, nous sommes dans des tableaux pleins de symboles. Et encore une fois, je vous propose de lire, d'écouter la lecture de ces développements, simplement en laissant votre imagination compléter la lecture. L'étoile ouvrit le puits, et il en monta une fumée semblable à celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par cette fumée. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir semblable à celui des scorpions. on leur ordonna de ne dévaster ni l'herbe, ni les arbres, ni les autres plantes, mais de s'en prendre seulement aux personnes qui ne sont pas marquées au front de la marque de Dieu. Elles n'eurent pas la permission de les tuer, mais seulement de les tourmenter pendant 5 mois. La douleur qu'elles causent est semblable à celle d'une piqûre de scorpion. En ces jours-là, les gens chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Sur leur tête, il y avait comme des couronnes d'or, et leurs visages étaient semblables à des visages humains. Elles avaient des cheveux pareils à la chevelure des femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine semblait couverte d'une cuirasse de fer, et le bruit produit par leurs ailes rappelait le bruit de chars à plusieurs chevaux se précipitant au combat. Elles avaient des queues avec des pointes piquantes comme en ont les scorpions, et c'est dans leur queue qu'elles avaient le pouvoir de faire du mal aux êtres humains pendant 5 mois. À leur tête, elles ont un roi, l'ange de l'abîme. Il s'appelle Abaddon en hébreu et Apollyon en grec, le destructeur. Fin de la lecture au verset 11 du chapitre 9. Les sauterelles maléfiques, scène de terreur, tout simplement. Quelles sont ces sauterelles incontrôlables? Elles sont destinées à faire mal, à faire peur, elles sont impressionnantes, elles sont puissantes. Elles font penser, bien sûr, à l'invasion de sauterelles du prophète Joël. Et je vous rappelle, alors, ces récits que nous allons lire, que je vais commencer à lire, sont truffés d'allusions, de reprises d'images données par les prophètes de l'Ancien Testament. Ces sauterelles sont les forces du mal, les forces de ce gouffre, de ce puits. Elles sortent de l'enfer, on pourrait presque dire. Elles ont le roi, elles ont pour roi celui qui s'appelle le destructeur. C'est dire. C'est encore une fois une vision du jugement de Dieu. En l'occurrence, Dieu n'a fait que libérer la force terrible de Satan, puisque cette étoile a ouvert la fosse, le puits de l'abîme dans lequel se trouvaient toutes ces bêtes maléfiques. Alors, Dieu reste au contrôle, elles n'ont qu'un pouvoir limité, elles ne peuvent pas donner la mort, c'est pendant 5 mois. Alors, c'est le 5 mois, compliqué de savoir à quoi correspond cette durée, mais en tout cas, c'est une durée limitée. Et c'est une action délibérément contre les humains. Et contre les humains qui n'ont pas le sceau de Dieu. Alors c'est intéressant, si je fais allusion à ce que nous avons lu tout à l'heure ensemble dans la lettre aux Thessaloniciens, la deuxième, il s'agissait aussi de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir le sceau de Dieu va protéger, un peu comme lors de l'Exode, hein, c'est d'ailleurs ce genre d'allusion qu'on peut faire à foison, quand on n'est pas protégé par ce sceau de Dieu, eh bien on est sous les coups de la véhémence, de la violence du diable. Cette fois, ce ne sont pas des cataclysmes naturels, mais ce sont des bêtes de l'abîme, de l'enfer, du roi qui s'appelle le destructeur. Et puis, la sixième trompette, j'ai appelé cette scène les cavaliers de l'horreur. Verset 12 du chapitre 9. Le premier malheur est passé. Ah oui, parce que maintenant, on a ouvert une série de malheurs avec la cinquième trompette. Et il s'agissait d'un malheur. Et puis, on arrive maintenant au deuxième malheur. Verset 12, le premier malheur est passé. Après cela, deux autres malheurs doivent encore venir. Puis le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venir des quatre angles de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. La voix dit au sixième ange qui tenait la trompette, « Libère les quatre anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate !» On libéra les quatre anges. C'est précisément pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année qu'ils avaient été tenus prêts à faire mourir le tiers de l'humanité. On m'indiqua le nombre des cavaliers de leurs troupes. Ils étaient 200 millions. Et voici comment dans ma vision m'apparurent les chevaux et leurs cavaliers. Ils avaient des cuirasses rouges comme le feu, bleues comme le saphir et jaunes comme le soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers de l'humanité fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de la bouche des chevaux. Car le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche, ainsi que dans leur queue. En effet, leur queue ressemble à des serpents. Elles ont des têtes dont elles se servent pour nuire aux êtres humains. Fin de la lecture au verset 19. Il s'agit du même mécanisme, un appel, quelque chose qui part du ciel, qui part du trône de Dieu et qui déclenche la furie. Même tableau de terreur, mais cette fois-ci, c'est bel et bien la mort qui est donnée. De quelles armées s'agit-il ? S'agit-il d'armées humaines, d'allusions à toutes ces invasions grecques, romaines, en l'occurrence romaines, pour le temps de l'Apocalypse. En tout cas, c'est une nouvelle action contre les humains qui est donnée là. Et ce sont les humains qui persistent dans leurs crimes. Pourquoi je dis ça ? Ben, si on lit un peu la suite, versets 20 jusqu'à 21. « Or le reste de l'humanité, tous ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne renoncèrent pas à leur conduite. » Ils ne cessèrent pas de se prosterner devant les démons et les statues d'or, d'argent et de bronze et de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne renoncèrent pas non plus à leur meurtre, à leur magie, à leur débauche et à leur vol. On est bien dans un jugement de Dieu. Résultat chez les humains donc, aucun changement. Le monde est monde. Moi, chrétien du premier siècle, quand je lis ces choses, j'ai peur, et en même temps je me dis, mais peut-être que ça va les faire changer. Peut-être que toutes ces choses, quand elles arriveront, feront changer ceux qui ne veulent pas encore se tourner vers Dieu. Eh bien non. Dieu continue son jugement, et la septième trompette va intervenir, mais auparavant il va y avoir un tableau intermédiaire, on l'a déjà vu hein, tout à l'heure, le récit de l'aigle qui, entre la quatrième et la cinquième trompette, se met à planer en déclamant « malheur, malheur ». Bien là, nous avons de nouveau un tableau intermédiaire qui vient, en somme, faire une pause entre les déroulements, dans le déroulement de ces sept trompettes, de ces septenaires. Alors, chapitre 10, maintenant, versets 1 à 13. Je me suis fixé comme but de vous lire tous ces textes, parce que ce sont des visions qu'il faut accueillir comme telles, je l'ai déjà dit, et qu'il ne faut pas forcément chercher à interpréter. Donc je ne souhaite pas partir dans une interprétation pied à pied, objet pour objet, qui sont ces sauterelles. Certains vont vous dire, je fais une petite parenthèse, certains vont vous dire, ah oui, il s'agit des hélicoptères, de l'armée, de tel ou tel dictateur, ou des avions, des je ne sais quel engin. Non, il s'agit de bêtes, de créatures qui font peur et qui sont là pour agir sous la puissance au nom de la puissance de Satan, tout simplement. Je ne sais pas s'il faut chercher quelque chose de plus détaillé. Alors, lisons maintenant ce tableau intermédiaire entre la sixième et la septième trompette. Chapitre 10. Je vis un autre ange puissant descendre du ciel. Donc on est toujours, je fais une petite parenthèse de nouveau, c'est toujours, nous sommes toujours devant le trône de Dieu dont j'ai lu la description. Nous sommes toujours devant cette cour de Dieu entouré de ses anges sur son trône, devant cet autel d'encens en or. Nous sommes là, devant une présence dans une situation extrêmement impressionnante. Et voilà, il y a un ange qui descend du ciel. Il était enveloppé d'un nuage, je reprends la lecture, et un arc-en-ciel couronnait sa tête. Son visage était comme le soleil et ses jambes étaient pareilles à des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il cria avec force, comme un lion qui rugit. À son cri répondit le grondement des sept tonnerres. J'allais mettre par écrit ce qu'ils avaient dit, mais j'entendis une voix des cieux me donner cet ordre. Tiens secret le message des sept tonnerres, ne l'écris pas. Alors, je suis au verset 5, alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers les cieux. Il fit ce serment au nom du Dieu qui vit pour toujours, qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Au moment où le septième ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son projet de salut comme il l'avait annoncé aux prophètes, ses serviteurs. Puis la voix que j'avais entendue venir des cieux me parla de nouveau en ces termes. « Va, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'approchai de l'ange et lui demandai de me remettre le petit livre. Il me répondit « Prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton estomac, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais après l'avoir avalé, il devint amer pour mon estomac. On me dit alors « Il faut une fois encore que tu annonces ce que Dieu a prévu concernant beaucoup de peuples, de pays, de langues et de rois. » Fin de la lecture, donc je viens de lire tout le chapitre 10. Alors, si vous connaissez un peu les prophètes, vous avez tout de suite pensé à Ézéchiel. Ézéchiel, je vais vous lire l'appel de la vocation d'Ézéchiel. Alors, je pourrais faire cet exercice, je l'ai dit tout à l'heure, plein de fois en fait. Mais là, bon, il me semblait que c'était assez intriguant de voir cette image d'un homme qui mange un livre. En fait, c'est pas intriguant du tout. C'est tout simplement Jean qui prend la même position qu'Ézéchiel, c'est-à-dire la position du prophète. Alors, Ézéchiel, chapitre 2, verset 9. « Je regardais, une main était tendue vers moi, tenant un livre rouleau. Il le déploya devant moi, il était écrit en dedans et en dehors, il y était écrit lamentation, plainte et gémissement. Il me dit, humain, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau, il me dit, humain, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Il me dit, humain, enfin je poursuis la lecture, tout ça continue avec. Nous sommes au début du livre. Tout ça continue avec tout le livre d'Ézéchiel. Alors oui, Jean prend la position du prophète là, prophète qui a quelque chose à dire au peuple. Ézéchiel, son nom en témoigne d'ailleurs, faisait face à un peuple qui était dur et il fallait qu'il s'endurcisse. Hein, c'est Dieu endurcit. Ce message de jugement que devait délivrer Ézéchiel, bien, quelque part, Jean doit le délivrer aussi aux personnes qui ont refusé de recevoir la marque de Dieu sur elles. En gros, aux personnes qui ont refusé de croire que Dieu les aime et veut leur donner le pardon des péchés. Donc, Jean se trouve là par cette vision investie par Jésus lui-même. Si on considère que cet ange qui a un pied sur la mer, un pied sur la terre, c'est l'ange de l'Éternel, l'ange qui n'en est plus un, une vision de Jésus lui-même, donc qui est bien plus qu'un ange, c'est Jésus qui est investi Jean de ce devoir prophétique à l'égard des personnes qui refusent de croire que Dieu est Dieu. Toujours ensuite dans la même vision, on va avoir au chapitre 11 maintenant une autre manière de faire de l'apôtre Jean. Versets 1 et 2 du chapitre 11. On me donna ensuite un roseau, une sorte de baguette servant à mesurer, et l'on me dit, va mesurer le temple de Dieu ainsi que l'autel, et compte ceux qui se prosternent dans le temple. Mais laisse de côté la cour extérieure du temple, ne la mesure pas, car elle a été livrée aux autres peuples qui piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Voilà, j'arrête la lecture là. Alors c'était comme le prophète Zacharie cette fois, c'est un temple que l'on construit, et un peu comme Jésus qui construit son église, et bien là Jean est en train de mesurer un temple qui est en construction. Zacharie était prophète du retour de l'exil et il s'agissait de reconstruire le temple. On voit aussi dans la vision de l'apôtre Jean que le temple est au milieu d'autres choses qui ne sont pas en cours de construction. Hein. Verset 2, laisse de côté la cour extérieure du temple, ne la mesure pas, elle est livrée aux autres peuples qui piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Donc il s'agit simplement peut-être de l'image de l'Église, de Jésus-Christ, qui est elle aussi en construction. Et moi qui écoute cette vision chrétienne du premier siècle, je me dis, c'est déjà pas mal. L'Église est en construction, Dieu s'y affaire, Dieu est au contrôle. Mais nous sommes entourés d'un monde qui est impie, dans lequel on ne croit pas du tout que Dieu est Dieu. Donc voilà le rôle de prophète de Jean, s'adresser d'une part aux personnes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, c'est-à-dire qui ne croient pas que Dieu les aime, qui refusent Dieu, et d'autre part de s'adresser à ceux qui participent à la vie de Dieu, à ceux qui croient que Dieu est le Seigneur, et ceux-là sont dans la construction, ce projet de construction. Donc ça redonne une perspective, et moi je dirais qu'aujourd'hui encore, ça donne une perspective. On voit un monde qui peut être pas mal compliqué, et en particulier pour les chrétiens persécutés. Eh bien, oui, et cette vision-là nous dit, et leur dit, le monde est ce qu'il est, mais l'Église continue d'être en construction. C'est un message d'espérance. Dieu continue son œuvre. Jésus continue de bâtir son Église. Ce n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Dieu n'a pas perdu la partie. Pas du tout. Malgré les apparences que nous pouvons constater autour de nous. Alors ensuite, je vous propose de lire le verset 3. « J'enverrai mes deux témoins portant un vêtement de deuil et ils transmettront les messages reçus de la part de Dieu pendant ces 1260 jours. » Alors là, tout à l'heure, on avait 42 mois, maintenant on a 1260 jours. C'est une allusion au prophète Daniel, cette fois, qui parlait de 3 ans et demi. Plutôt. Daniel parlait de un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Je ne sais pas si on arrive à bien à comprendre cette durée, mais peut-être qu'on peut simplement dire qu'il s'agit d'une durée maîtrisée, d'une durée qui est comptée. Jean fait allusion à cette prophétie de Daniel et évoque le temps de profanation, le temps où il semblera que Satan ait gagné. Et la preuve, c'est que les prophètes seront dans des vêtements de deuil. Hein, c'est les vêtements, l'image du sac, pour certains traducteurs hein, qui ont marqué « revêtez-vous d'un sac », vêtements de deuil. Alors oui, ce sont des visions d'une apparente défaite, en fait. Hein. Alors ensuite, je lis au verset 4, gardons cette idée sous le coude. « Les deux témoins sont les deux oliviers » et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, en lisant ça, on se dit, oh, il y a vraiment des symboles partout. Qu'est-ce que c'est encore que ces deux oliviers, ces deux chandeliers? C'est le prophète Zacharie qui donne la réponse. De nouveau, au chapitre 4 du livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament, nous avons chandeliers, nous avons porte-lampes, et nous avons des oliviers aussi qui symbolisent les envoyés de Dieu. Voilà, donc de nouveau, nous sommes devant une scène où Dieu envoie, envoie des messagers, envoie des porte-paroles dans ce monde. Là, je vais reprendre la lecture au verset 5. Pardon. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un voulait leur faire du mal, c'est ainsi qu'il mourra. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux pour empêcher la pluie de tomber aussi longtemps qu'ils transmettent les messages reçus de la part de Dieu. Alors ça, c'est une allusion au prophète Élie. Vous voyez comme c'est foisonnant, hein, ces tableaux de l'apôtre Jean. Ils ont également le pouvoir de changer l'eau en sang. Alors ça, ça vous l'aurez compris, je pense, comme moi. Et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux. Ça, c'est une allusion à Moïse, avec les plaies d'Égypte, aussi souvent qu'ils le veulent. Quand ils auront fini de proclamer leur message, la bête qui monte de l'abîme les attaquera, elle les vaincra et les tuera. Ben oui, les prophètes, en tout cas plusieurs des prophètes, sont morts de mort violente, persécutés, rejetés par le peuple. Ben là, c'est la même chose. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, qui est appelée de manière symbolique Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tous les peuples, de toutes tribus, de toutes langues, de tout pays regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et c'est toujours la même période, un temps, deux temps et la moitié d'un temps de Daniel. Hein. Et ils ne permettent pas qu'on les enterre. Les habitants de la terre s'en réjouissent, ils font la fête joyeusement et échangent des cadeaux, parce que ces deux prophètes ont causé bien des tourments aux habitants de la terre. Mais, verset 11, « Après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux. Ils se dressèrent sur leurs pieds et tous ceux qui les virent furent saisis de terreur. Les deux prophètes entendirent alors une voix forte leur commander des cieux, « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans un nuage sous les regards de leurs ennemis. Au même moment, il y eut un violent tremblement de terre, la dixième partie de la ville s'écroula et sept mille personnes périrent dans ce terrible tremblement de terre. Les autres gens furent terrifiés et rendirent gloire au Dieu des cieux. Le deuxième malheur est passé, mais attention, le troisième vient bientôt. Bon, on commence à être essoufflé devant tous ces malheurs qui agissent. Alors voilà, nous avons eu, je résume toutes les allusions qui ont été faites. Parce que là, il faut quand même dire que cette vision, on a un peu de peine à se laisser guider naïvement. On a vraiment envie d'aller chercher à quoi correspondent les symboles. Alors on a eu Daniel dans la fournaise, avec le feu qui a détruit le feu, hein, les soldats qui les avaient précipités. On a Jérémie et le feu aussi. On a Élie et la sécheresse. On a Moïse et les plaies d'Égypte, je vais rappeler. Donc on est bien dans une fonction prophétique. Et si je considère que le chandelier, c'est non seulement le symbole d'un envoyé de Dieu, pour reprendre l'allusion de Zacharie, mais aussi le même symbole que les chandeliers qui étaient dans les chapitres 2 et 3, c'est-à-dire les églises, ça veut dire que l'église a une fonction prophétique et que l'église a, dans ce monde, la vie dure, en quelque sorte. Elle va annoncer que le monde court à sa perte La fonction prophétique de l'Église est soulignée ici, dans la mesure où, ben voilà, on annonce que le monde ne va pas bien, que le monde est dans le mal, et ces allusions aux prophètes de l'Ancien Testament nous encouragent quand même et nous disent nous avons l'investiture en quelque sorte de Dieu pour annoncer son évangile, malheureusement aussi. Peut-être son jugement à l'encontre des personnes qui offensent Dieu et qui lui tournent le dos. Donc cette fonction prophétique de l'Église, elle peut inquiéter, parce que ça se passe mal pour les témoins, ils sont mis à mort quand même. Hein, mais en même temps, ils vont, au bout de ce temps de profanation, ces 3 jours et demi, qui sont très mystérieux, à moins qu'on se dit simplement que c'est une allusion au prophète Daniel. Bon, dans le prophète Daniel, ça peut être mystérieux aussi d'ailleurs, mais au moins on sait dans l'Apocalypse d'où ça vient. Et c'est un temps donné au-delà duquel l'Église sera réhabilitée, sera rétablie, on peut le dire. Alors, l'horizon s'est assombli, oui, l'Église va être mise à mal. Peut-être que les différents symboles qui représentent le lieu du pouvoir du peuple, hein, cette fameuse ville, le verset 8, « Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée de manière symbolique Sodome. » Alors Sodome, bon, dans la Bible, Sodome, c'est le lieu de la corruption. L'Égypte, c'est le lieu de la servitude, de l'oppresseur. Hein, si on regarde l'histoire de l'esclavage, l'Exode, enfin avant l'Exode. Et puis, peut-être aussi au cours de l'histoire d'Israël, l'Égypte n'a jamais représenté un allié sûr. Et puis, là où le Jésus a été crucifié, ben, c'est le rejet du Christ, hein, le rejet du Sauveur. Donc la figuration radicale de la persécution, de la dureté du monde est donnée par cette ville. Alors on peut penser à Jérusalem bien sûr, mais il s'agit essentiellement d'une ville qui concentre tout le mal dont l'homme est capable. Ceci dit, on ne voit ici que 3 jours et demi, alors qu'auparavant il s'agissait d'une période beaucoup plus longue, 1260 jours, 42 mois. Peut-être là, le message est là, c'est-à-dire que la période où l'Église semblera détruite sera beaucoup plus courte que la période qui précède, la période où elle était à l'action. Et puis nous terminons notre lecture un peu essoufflée, hein, de toutes ces visions. Mais après ces 3 jours et demi, ah oui, je l'ai lu le verset 11 à 14, nous sommes de nouveau avec une Église réhabilitée, et c'est là qu'intervient la septième trompette. Chapitre 11, versets 15 à 18, et nous arrêterons ensuite la lecture. Puis le septième ange sonna de la trompette, des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elles disaient, « Le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Christ, et ce règne durera pour toujours. » Les 24 anciens qui siègent sur leur trône devant Dieu tombèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Seigneur Dieu souverain, toi qui es et qui étais, nous te remercions d'avoir exercé ta grande puissance pour établir ton règne. Les peuples se sont soulevés avec colère, mais maintenant c'est ta colère qui se manifeste. Le moment du jugement des morts est arrivé, le moment où tu vas récompenser tes serviteurs les prophètes et tous ceux qui t'appartiennent et reconnaissent ton autorité, grand ou petit. C'est le moment de détruire ceux qui détruisent la terre. » Verset 18. Donc là, on est devant la vision qui était assez comparable au chapitre 4 de l'Apocalypse. On est toujours, on ne l'a jamais quitté d'ailleurs, mais on est toujours devant le trône de Dieu, entouré de ces 24 anciens qui peuvent figurer peut-être 12 et 12, Israël, le peuple d'Israël, et puis le peuple de Jésus réuni en un seul peuple. C'est une hypothèse plausible, tout à fait possible, faisable. C'est une vision très définitive de la seigneurie de Dieu qui ne sera plus perturbée par d'autres choses. Et Dieu là donne son jugement, reprend sa position de maître et souverain de l'univers. Alors, souvenons-nous que les chrétiens qui vivent ça au premier siècle sont dans une situation de minorité, de persécution, ils sont victimes d'accusations mensongères et on fait leur procès ici et là. Et là, c'est, on retrouve son souffle quand on lit cette description. Alors voilà, j'arrête là la lecture. On a avec ces scènes-là des scènes très lourdes. Des scènes apocalyptiques, hein, pour reprendre l'expression qui vient de là, qu'il faut lire à deux vitesses. Alors, la comparaison ne mérite peut-être pas d'être faite, mais je vais la faire quand même. C'est un peu comme Astérix. On peut lire Astérix comme un livre d'histoire, avec des scènes, un scénario, etc. Puis on peut le lire aussi avec toutes les allusions qui sont faites à des acteurs, des hommes politiques, des femmes, ou des hommes et des femmes politiques, etc. etc. Alors, l'Apocalypse, c'est pareil. On peut voir les tableaux. Et qu'est-ce qu'on va retirer de ces tableaux? Ben, des sombres heures. Mais on va retirer que Dieu, au bout du compte, à la septième trompette, finalement, est le maître et reste le maître. Il y a un profond encouragement à être témoin de ce Dieu-là, à être prophète, porte-parole de ce Dieu-là, même si les circonstances nous sont contraires, puisqu'il est question du... Bah de la mort des témoins des oliviers et des porte-lampes, des chandeliers. Donc on est exhorté en tant que chrétien du 1er siècle et chrétien du 21e siècle à comprendre toutes ces allusions. Ce texte, ces visions ne viennent pas de nulle part, elles viennent des prophètes de l'Ancien Testament et on sait comment lire les prophètes de l'Ancien Testament. On sait qu'ils ont toujours manifesté, proclamé la vérité divine, mais qui n'ont pas toujours été bien reçus. N'empêche que c'est eux qui sont serviteurs et servantes de Dieu, et c'est eux qui sont notre modèle, nous, en tant que chrétiens. Et je pense que c'est là le message central, c'est que cet ensemble de visions, avec toutes les allusions, et j'en ai certainement raté, qui vont prendre racine dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament, nous légitiment, nous disent, vous, chrétiens, qui êtes en minorité, qui êtes aussi en rupture avec l'Ancienne Alliance, mais vous êtes légitimes à être porte-parole de Dieu, témoin de Dieu, prophète, au sens... Du coup, assez large, pas prophète historique comme Élie ou Moïse ou Zacharie, mais prophète au sens de porte-parole de Dieu dans ce monde. Donc, ne vous laissez pas abuser par les circonstances qui vous sont contraires, mais faites confiance à Dieu. Donc voilà, au prix d'une collection de visions, et je n'ai lu qu'un septenaire parmi tous les autres du livre de l'Apocalypse, eh bien nous avons compris le message que Dieu nous adresse aujourd'hui encore. Et ce message est bien plus vibrant encore, je pense, pour les chrétiens de pays en persécution, ou ceux d'entre nous qui souffrent peut-être des difficultés, qui souffrent d'ostracisme, de vexation, de toutes sortes de maltraitances en raison de leur foi. Voilà, ne perdons pas courage, restons vigilants à être fidèles à Dieu, sachant que nous avons la marque du sceau, le sceau de Dieu sur le front, hein, pour reprendre l'expression parmi les quatre trompettes, et soyons courageux, soyons engagés dans notre foi, et ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas décourager par les circonstances qui peuvent nous être contraires. Et n'oublions pas que nous pouvons avoir confiance en Dieu qui, à la septième trompette, peut-être même on pourrait dire seulement à la septième, mais à la septième, réapparaîtra comme le grand juge, le grand souverain de la terre.